Bien, alors, une seconde où ça se passe. Page 128. Donc, Chaye Sara. Donc, page 128, c'est bon. Alors, donc c'est le chapitre Kaf et Pasuk Yud Bet. Donc au début de la paracha, on nous dit les années de Sarah. Gardez un doigt sur la page 128, mais on va commencer à la page 112. Vayu chaye, donc le début. Vayu chaye Sarah, mea shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene chaye Sarah. Voilà les années de Sarah. 100 ans, 20 ans, 7 ans, voilà les années de Sarah. Ça veut dire, elle a vécu 127 ans. Voilà. Maintenant, le verset nous dit ça de manière 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Pourquoi elle ne dit pas 127 ans? Oui, c'est pour nous dire qu'il y a une égalité entre toutes ces années. C'est-à-dire que elle avait une continuité dans sa vie, à 100 ans comme à 20 ans, comme à 7 ans. Elle avait une vie remplie, pas une vie vaine, pas une vie, avec des creux et des hauts et des bas. Il y avait une continuité dans sa vie. Voilà. Alors, ça commence avec ça et ça termine avec les années d'Ishmaël, donc c'est-à-dire que Avram a eu avec Agar Ishmaël, ensuite avec Sarah, il a eu Yitzhak. D'accord ? Bien. Regardez dans le chapitre Kaf et le verset Yud Bet, chapitre 25, verset 12. Vele toldot Ishmaël ben Avram. Asher Yalda Agar Amitzrit Shifrat Sarah et Avram. Voilà les engendrements d'Ishmaël, le fils d'Avram, que lui a mis au monde Agar l'Égyptienne, la servante de Sarah, à Avram. Bien. Vele Shemot ben Ishmaël, Bishmotam le Toldotam. Bechor Ishmaël Nevayot, ve Kedar, ve Adbel ou Mifsam. Voilà le nom des fils d'Ishmaël, selon leur nom, dans l'ordre de naissance. Le premier né d'Ishmaël, Nevayot, ensuite Kedar, ensuite Adbel, Mifsam, Mishma, Veduma, Massa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, Vakedma. Donc tout ça, c'est les fils d'Ishmaël. Vele ben Ishmaël, Ve'ele shemotam bechatzrem ve'tirotam shne masan nesim leumotam. Voilà les fils d'Ishmaël. Voilà leur nom. Bechatzrem. Alors qu'est-ce que ça veut dire bechatzrem? Dans leur ville sans muraille. Au betirotam, tirotam, ce sont leurs châteaux. Donc il y avait. Donc il y avait, comment dire, les fils d'Ishmaël, en vérité c'est les orientaux si vous voulez, hein, les fils d'Ishmaël, c'est les orientaux, c'est l'Arabie, tout ça, hein, d'accord. 12 princes selon leur nation, donc il y avait 12 princes des descendants d'Ishmaël. Ve eleshene chaye Ishmaël, mea shana, ushloshim shana, ve sheva shanim, va igva, Vayamot, Vayesaf et Lamav. Voilà les années de la vie d'Ishmaël, 100 ans et 30 ans et 7 ans, 137 ans. Il expira, il mourut et retourna vers ses pères, retourna vers ses peuples. Voilà, retourna donc dans la vie après la mort. Voilà. Alors, les sages demandent, pourquoi la Torah nous dit les années d'Ishmaël? Parce que, en vérité, Ishmael, disons, la Torah, c'est la Torah des Juifs. Pourquoi ça nous. Pourquoi la Torah. Donc, que la Torah nous dise les années de la vie de Sarah en détail, ok? Mais pourquoi les années de la vie d'Ishmael? Donc, c'est ça la question que nous allons travailler. Voilà. Pourquoi? Donc, Rashi pose la question. Rashi pose la question. Alors. Gardez un doigt sur la page 128. La solution à cette question se trouve à la fin de la paracha de Shabbat dernier, à la fin de parachat Toldot. Et là, il y a un très grand Rashi aussi. Donc, il avait... Quel âge avait Ishmael, quand il est mort, 137 ans, n'est-ce pas? 137 ans. Bien. Alors maintenant, on va aller à la fin de Parashat Toldot. Page 152. Donc les années passent, etc. Yitzhak, fils de Avram et Sarah, se marie avec qui? Madame Bokhara. Yitzhak, il se marie avec
Rebecca.
Ben voilà.
Ouais. Avec moi.
Je sais. Voilà, il se marie avec Rebecca, n'est-ce pas? Et ils ont eu qui comme enfant?
Alors.
Ah, ici on bosse, hein, c'est pas la
télé. Bah oui, oui.
Hein. C'est pas Internet. Hein.
Alors, les enfants, c'est hein? Jacob. Non.
Et l'autre, quoi.
Et l'autre, oui. Mais
qui s'appelle comment les... Hein
Yitzhak. Isaïe.
Et
non. Jacob et Esav.
Esaü, d'accord?
Oui.
Jacob et Esaü. Donc le Yitzhak et Rivka. Donc ils ont eu deux jumeaux, Yaakov et Esaü. En juif, hein, on dit comme ça, Esaü en français. D'accord? Bien. Alors, regardez le verset à la fin. Donc, Yitzhak dit à Jacob, c'est pas bien que tu... tu dois partir de la terre de Canaan pour aller épouser une femme dans mon pays, en Haran, d'où vient ma famille. Alors, le verset dit, le verset Chet du chapitre 28, le verset 8, le chapitre 28, Vayar Esav, qui raot benot Kenaan, bene Yitzhak aviv. Esav vit que les filles de Canaan déplaisaient à Yitzhak son père, puisqu'il a dit à Jacob, je ne veux pas que tu épouses une fille de Canaan. Donc il a vu, Esaü, que les filles de Canaan déplaisaient à son père. Vayeler Esav el Ishmael, Vaikar et Machalat bat Ishmael ben Avram achot nevayot an nashav lo leisha. Esav est allé chez Ishmael, donc Ishmael c'est son tonton, et il a épousé Machalat, la fille de Ishmael, qui est le fils d'Abraham, et Machalat, qui est la sœur de Nevayot, en plus de ses premières femmes. Ok? Ça va, c'est bon? Ça va, tout va bien? La vie est belle? Alors ça va pas. Pourquoi? Tu connais ça, Gad, par cœur, mais on va creuser néanmoins. Esav est allé chez Ishmael, il a épousé Machalat, la fille d'Ishmael, qui est Ishmael, le fils d'Abraham. Machalat, la sœur de Nevayot. Mais on sait bien que c'est la sœur de Nevayot. Qu'est-ce que la Torah se répète? On a vu, voilà les fils d'Ishmael. On sait bien que c'est la sœur de Nevayot. C'est bidon, non? Moins 1. En rouge dans la marge. Moins 1. Vous avez mis moins 1 ? L'auteur se répète. Vous voyez le problème ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous sentez le problème ? Sylvain, tu sens le problème ? Tu vas craquer ? T'es en apoplexie ?
Oui. Je suis craqué, oui.
Ouais, tu craques ?
Oui.
Alors, d'accord. Vous voyez, madame, le problème ?
Vaguement.
Ah non.
Oui, parce que moi, je suis vraiment...
Oui, non, mais j'ai compris.
Je suis vraiment novice. Hein,
non, mais j'ai compris. J'ai compris. Alors,
Je connais un petit peu, mais pas trop.
Non, mais là, toutes les cartes sont sur la table. Il n'y a pas de truc foireux.
Vous c'est... dites...
Regardez, on va... Profitons que nous soyons un petit comité pour qu'on travaille ensemble. On va profiter. Voilà. On a vu plus haut les enfants d'Ishmael. D'accord ?
D'accord.
Ça, c'est clair. On a vu ça.
Vous pouvez redire les noms, s'il vous plaît, des enfants d'Ishmael ?
Bon, peu importe les noms. Regardez, en page 128.
Oui.
Vous prenez 128, on bosse ici. Je ne sais pas qu'est-ce que Rebecca vous a dit. On veut un truc sympa. Oui, c'est sympa, mais on bosse. Alors, regardez. Le verset 13. Vous l'avez en français. Et voici les noms des fils d'Ishmaël. Selon leur nom,
okay.
Dans l'ordre de leur naissance.
D'accord. Okay.
Le premier dé d'Ishmael, c'est Nevaïot. Ensuite, il y a Kedar, Abdel, Mifsam, etc.
D'accord.
C'est bon ? Donc, dans ce chapitre-là, on nous dit les noms des fils d'Ishmael, patati, repatata. Maintenant, on passe des versets, taratata, tata, plusieurs chapitres. Et on arrive au verset 8. Du chapitre 28. Esaü a vu que les filles de Canaan déplaisent à son père, et Esaü est allé chez Ishmael. Il a épousé Mahalat, la fille d'Ishmael.
Okay.
D'accord ? Il a épousé Mahalat, la fille d'Ishmael. D'accord ? Ok. Donc si c'est la fille d'Ishmael, on sait bien que c'est la sœur de ceux qu'on a dit plus haut, puisqu'on nous a dit les fils d'Ishmael. Donc, on sait bien que c'est la sœur de ceux qu'on a dit plus haut. C'est bidon. C'est 1 plus 1 égale 2. Et toc, on nous dit que c'est la sœur de Nevaïot. Il y a un problème, non ? Vous voyez le problème apoplectique ?
Je ne sais pas si je peux voir. Moi, ce que je pense, c'est qu'au lieu de prendre... il doit se marier avec quelqu'un qui... Parce qu'il porte son droit d'aînesse, il a encore son droit d'aînesse à ce moment-là. Donc, c'est lui le précurseur du peuple juif.
Qui ?
Esav ?
Pas du tout, au contraire.
Oui, au contraire, mais je veux dire au départ.
Non, il l'a déjà vendu, ça y est, c'est fini, c'est déjà shippé, là.
Oui, voilà, c'est ça que je voulais savoir.
Si toi, tu fais ton truc, tu ne pourras pas comprendre, mon mec.
Oui, pardon.
Hein, je te prends, passe-le moi. Comme à l'école, les mecs. Comme un petit « je t'enlève ton addiction », là.
Oui, oui.
Alors, tu peux pas faire 36 choses en même temps, mon mec. Alors, une seconde. Là, je comprends ce que vous dites. Ouais. Mais là, ça y est, il a déjà pris l'aînesse, le droit d'aînesse.
Il reste l'aînesse.
Alors maintenant, il va épouser la fille d'Ishmael. Donc, automatiquement, c'est la sœur de Nevaïot. Vous voyez que c'est automatique, puisque on nous a dit plus haut les fils d'Ishmael.
Oui.
Donc, automatiquement, s'il épouse la fille d'Ishmael, il épouse, c'est la sœur des fils d'Ishmael.
Il va épouser la fille d'Ishmael.
La fille d'Ishmael.
Oui.
Regardez, on lit en français. Esaü alla, alors, chez Ishmael, et prit Mahalat, la fille d'Ishmael, fils d'Avram, sœur de Nevaïot. Évidemment, c'est la sœur de Nevaïot, puisqu'on a dit que les fils d'Ishmael, l'aîné d'Ishmael, c'est Nevaïot. Donc,
peut-être qu'on veut dire que c'est la sœur même de la mère, même par la mère.
Ça peut être. Mais bon, on ne comprend pas bien. Alors, la tradition orale nous dit, La tradition orale nous dit...
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est là que ça se passe, oui, d'accord.
La tradition orale nous dit que... Pourquoi on nous dit la sœur de Nevaïot ? Parce que quand ils ont fait les fiançailles, Ishmael était vivant, mais au moment du mariage, Ishmael est mort, et donc c'est son grand frère qui l'a amené sous le mariage, sous le dénuptial. Pourquoi ça nous apprend ça ?
Prenez un texte, on regarde, 150.
Pourquoi on nous dit Vayeler Esav et Ishmael, Esav est allé chez Ishmael, il a pris Mahalat, la fille d'Ishmael, fils d'Abraham, sœur de Nevaïot. Pourquoi on nous dit que c'est la sœur de Nevaïot? La tradition orale nous dit, c'est pour nous dire que quand il s'est fiancé Ésaü avec Mahalat, Ishmael était vivant. Mais quand il l'a épousé, il venait de mourir, donc c'est le grand-fils qui a amené sa sœur sous le dénuptial. Do you understand?
Non.
Niet, pas compris. Niet, rien compris.
Mais alors, niet.
Niet.
Sorry.
Ok. Alors, on reprend.
Je suis désolée. Hein.
Non, mais c'est parfait, c'est parfait. On est là pour que ça soit...
Je commence.
Non, mais là, ça c'est... Je sais pas ce que vous faites comme métier, mais dans la vie, il y a des raisonnements.
Absolument.
Hein?
Absolument.
C'est un raisonnement simple, ça.
Oui.
Hein, c'est un raisonnement simple.
Ok. D'accord.
Je reprends. La Torah nous dit plus haut, les fils d'Ishmael. Il y a les fils d'Ishmael. Ishmael, il a eu comme fils Nevaïot, Kedar et d'autres. D'accord ?
Oui.
Plus loin, des chapitres après, ici,
oui.
On nous dit que Ésaü, Esav, il épouse Mahalat. Mahalat, la fille d'Ishmael, fille d'Ishmael, sœur de Nevaïot. Et épousée, Mahalat, la fille d'Ishmael, sœur de Nevaïot.
Ok, d'accord, oui, oui.
C'est bon.
D'accord, c'est bon, j'ai compris.
C'est bon.
Ah non, là, c'est bon. Ouais.
Ok. L'auteur de la Torah. Pourquoi il a mis ça?
Pourquoi il a précisé ça?
C'est bidon!
Bah oui, puisqu'on le sait déjà, quoi.
Voilà. Ça, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'homme. Là, nous avons progressé. Ça s'appelle commencer à étudier la Torah. Vous voyez?
Voilà.
Là, c'est bon.
On y est.
Là, ça veut dire l'étude. C'est commencer à ne pas comprendre.
Ah ben c'est fait.
Voilà. Non, ça veut dire... ça veut dire, le truc, c'est pas ne pas comprendre, que ça soit dans une bouillie, mais avoir des questions précises.
Voilà.
Vous voyez, par exemple, vous avez déjà regardé des sites islamiques ?
Non, j'ai peur.
Comment ? Moi, par curiosité,
j'ai peur d'être suivi après, tu sais.
Ouais.
J'ai peur d'être fiché.
Moi, par curiosité, je suis allé voir des fois Ouma.com ou des trucs comme
Qu'est-ce
ça.
Que vous allez voir?
Bah, des sites musulmans, voir. Un peu des conférences de Tariq Ramadan.
Alors, moi, par contre, j'ai été sur Facebook, si je peux me permettre, sur la page de Tariq Ramadan. Après les fameux après ce qui lui est arrivé, après le côté c'est la faute du sionisme, etc. Et là les commentaires, ils vous tombent des mains quand même, hein. C'est-à-dire des yeux, vous regardez votre ordinateur, les bras vous en tombent.
C'est des vrais gens qui font des vrais commentaires.
Ah bah oui, bien sûr.
Et qui pensent ça, quoi. Là, on se dit...
Non, mais ça avance.
On parle de très...
Non, mais la société, là, à tout niveau, là, vraiment...
Ouais. Bon, mais regardez, il y a 15 ans, j'ai regardé des trucs de Ramadan pour voir un peu qu'est-ce qu'ils racontaient. Mais alors, ça ressemble pas à l'étude de la Torah. Ça veut dire, eux, c'est apologétique. C'est Abdoulilah qui soit glorifié, machin bidule, ouais, etc. Nous, bon, ça, c'est chacun sa culture. Mais nous, dans notre culture, dans notre tradition, vous voyez, n'importe quel site de Torah, c'est une question dans le verset. Ça commence toujours par une question précise, pas floue. Mais pourquoi la Torah, elle dit ça, mais ailleurs, elle dit autre chose. C'est toujours comme ça. N'importe quel site de Torah, n'importe quelle étude de Torah, n'importe quel maître de Torah, c'est toujours. Mais pourquoi tu as dit ça, mais ailleurs, tu as dit autre chose.
Mais le juif, c'est la question.
Mais c'est des questions précises. Nous, là, on a commencé une étude ensemble. Profitons, des fois il y a plus de monde, des fois il y a moins de monde. Bon, là, on est entre nous, on peut bien prendre notre temps pour bien voir clairement la question. La question, c'est que cette expression, Esaü a épousé Mahada, la fille d'Ishmael, sœur de Nevaïot.
C'est presque pas la peine de le préciser, puisqu'on le savait déjà. Quoi.
C'est moins un. Il faut mettre moins un. Si j'étais prof avec un stylo en rouge, je mettrais. Vous répétez, synthétisez votre pensée. Voilà. Alors, comme dans la Torah, il y a des questions tout le temps. Il y a des. Apparemment, ça se contredit. Nous avons une tradition orale. Ça, c'est le texte de la Torah écrite. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit à la synagogue le Shabbat. Mais. Il y a une tradition orale. Là, tous ces livres, c'est la tradition orale. Vous allez me dire, c'est écrit ou c'est oral ? C'est-à-dire, tous ces livres, c'est que se transmet une tradition que nous savons depuis le Sinaï, oralement, comment aborder certaines questions. La tradition orale nous dit, si on nous dit que Esaü a épousé Mahala, la fille d'Ishmael, sœur de Nevaïot, c'est pour nous dire qu'au moment du mariage d'Esaü et Mahalat, eh ben, Ishmael, elle, venait de mourir, et que c'est en vérité Nevaïot qui a amené sa sœur au mariage.
Qui venait de mourir, pardon ?
Le papa.
D'accord, ok.
Que quand il s'est fiancé avec elle, Ishmael, le papa, était toujours vivant, mais au moment du mariage, Ishmael n'était pas là. Donc quand on dit « sort de Nevaïot », c'est pour nous dire...
C'est la référence.
C'est pour nous dire que c'est Nevaïot qui a amené sa sœur sous le dénuptial. D'accord ? Alors, vous allez maintenant me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout ?
Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Qu'est-ce que ça change, quoi ?
Qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire ce qui s'est passé il y a 4000 ans, et ça fait 4000 ans, grosso modo. Comment ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Hein ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et là-dessus... Le Talmud va apprendre des choses énormes. Et c'est ça ce que je veux qu'on voit ce soir. Alors Rashi, le grand commentaire Rashi, rapporte le passage du Talmud dans le traité Megillah et il va nous expliquer quel est le problème. Alors, une petite seconde. Alors là, c'est complexe, hein, c'est complexe. Vous avez, page 152, le commentaire de Rashi. Voilà. Le commentaire de Rashi. Alors, c'est en écriture Rashi. Je vais vous le faire oralement. Hein. On va le lire. Et on va essayer que ça soit bien clair. Que ça soit bien clair. Achot Nevaïot, monsieur. Achot Nevaïot. Donc, Achot, il a épousé la sœur de Nevaïot. Mais Mashma Sheneamar bat Ishmael, de ce que le verset dit qu'il a épousé Mahalat, fille d'Ishmael, Ini Yodea Shi Achot Nevaïot, Est-ce que je ne sais pas que c'est la sœur de Nevaïot? Évidemment, je sais que c'est la sœur de Nevaïot. Et là, la Manou, nous apprenons chez Met Ishmael, mais chez Yada, les Sav, Kodem, Nisouéa. Qu'en vérité, au moment des fiançailles, Ishmael était toujours vivant. Mais ici, à Nevaïot Achia, et qu'au moment du mariage, c'est Nevaïot, son frère, qui l'a amené sous le dé nuptial. Là, Manou, nous apprenons. Shaya Yaakov Beoto Aperek Ben Samer Gimel Shanim. Donc maintenant, faisons le calcul. Faisons le calcul. Au moment où Esaü a épousé Mahalat, Jacob avait 63 ans. Comment on sait que Jacob avait 63 ans? Pourquoi? Share Ishmael Ben Aïn Daliet Shanim Ayak et Shenolad Yaakov. Ishmael avait 74 ans quand Jacob est né. Comment sait-on que Ishmael avait 74 ans? Alors, on va faire tout le calcul. Ishmael, on a vu qu'il est, il est mort à 137 ans. D'accord, bien. Ishmael avait 74 ans quand Jacob est né. 74 ans lorsque Yaakov est né. Comment savons-nous cela? Parce que quand Isaac est né, Ishmael avait 14 ans. Ça, on le sait des versets, que Ishmael avait 14 ans quand Yitzhak est né. Voilà. Ésaü et Jacob sont nés quand Yitzhak avait 60 ans. C'est écrit dans le verset, au début de Parashat Toldot, que Yaakov et Esav sont nés quand leur papa avait 60 ans. Donc, quand Yaakov est né, Yitzhak avait 60 ans, donc Ishmael avait 74 ans. Jusque-là, tout va bien. Continuons le raisonnement. Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Are Aindalet. Or, nous savons que les années d'Ishmael, ce n'est pas 137 ans. Donc, 137 ans. Donc, au moment où Ishmael est mort, Jacob avait quel âge? Voilà, une seconde. 137 moins 74. Voilà, c'est clair. Une seconde. Lorsque Ishmael est mort, oui, évidemment, Jacob, c'est 137 moins 74. 137 moins 74, ça fait 3, ça fait...
63 ans.
Comment ?
63 ans.
63. D'accord ? Donc, lorsque Ishmael a 137, Yaakov a 63 ans. D'accord ? 63 ans. Alors maintenant, on va voir combien d'années Yaakov a vécu et on va trouver des choses très intéressantes. Pourquoi on nous dit le nombre des années d'Ishmael et pourquoi on nous dit que Nevaïot a amené au mariage sa sœur pour nous apprendre ce que nous allons voir là maintenant. Regardons. Lamanu Mikan, alors une seconde. Nimsa Yaakov, Keshemet Ishmael, Ben Samer Gimel Shanimaya. Donc on voit que Yaakov, quand Ishmael est mort, il avait 63 ans. Puisque 137, moi 74, puisque Ishmael avait 74 ans lorsque Jacob est né. Là, maintenant, on apprend d'ici. Chez Nitman, Bebet Ever, Yudalin Shana, Varakar Alar Lecharan. On déduit d'ici que Yaakov est allé étudier la Torah 14 ans alors, avant d'aller chez Laban, chez Lavan. Pourquoi Rebecca vous faites
Jacob avait, Jacob avait 14 ans.
Non, il est allé étudier 14 ans.
Il est allé étudier 14 ans.
Comment on sait ça? Selon le raisonnement suivant. Regardez. Charé. Lo Sha'a. Bebet Lavan. Lifne les datos chez Yosef. Et la Yudalet Shana. Combien d'années. Parce qu'il est parti au moment où Ishmael est mort. Yankele, il est parti à Haran. Il est parti se marier. Donc il était chez Laban, son oncle, le frère de Rivka, le frère de Rebecca, à ce moment-là. Or, des versets, on voit qu'il a eu 11 fils avec Léa, Rachel, etc. 11 fils. Et ces 11 fils... Ça a duré 14 ans jusqu'à ce que Joseph, le dernier qui est né là-bas, en Mésopotamie, naisse. Il est resté 14 ans. Comme on dit, « Shenema avatira yudalet shana beshte belotecha »« Veshe shani betsonecha » Plus loin, on voit, il dit, « J'ai travaillé 14 ans, il dit à Laban, son beau-père, « J'ai travaillé 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour me faire un pécule. » Donc il est resté là-bas 20 ans. Sra Ratson, Meshe Nolad, Yosef, Aya, Shenema, Vikasher, Yadarachet, Yosef, etc. Ve Yosef, Ben Shloshim, Shana, Aya, Keshe Malach. Et donc il est resté avant la naissance de Yosef, après, il y a eu 14 ans, plus 14 ans. Où il a eu tous ses enfants. Le dernier des enfants qu'il a eu là-bas, en Mésopotamie, c'est Yosef. Naissance de Yosef. D'accord ? Naissance de Yosef, 63 plus 14, ça fait 77 ans. On continue. Lorsque Joseph est devenu roi, vice-roi en Égypte, il avait 30 ans. C'est écrit dans le verset. Il a 30 ans. Il a 30 ans. D'accord ? 30 ans. Donc théoriquement, 30 ans, théoriquement, Jacob devrait avoir 107 ans. Yes, we can ? C'est bon. On y va. Ve'Yosef ben Shloshim Shana aya keshe malach. Joseph avait 30 ans quand il est devenu vice-roi. Misham achedra Yaakov le Mitzrayim tet shanim. Mais entre le moment où il est devenu vice-roi et le moment que son père Jacob descend en Égypte, il y a eu encore 9 ans. Comment on sait qu'il y a eu 9 ans? Comment on sait qu'il y a eu 9 ans? Il y a eu 7 ans d'abondance et 2 ans de famine. 7 ans d'abondance, 2 ans de famine. Donc lorsque Jacob descend en Égypte au bout des 9 ans, il est censé avoir 116 ans. Yes ? 116 ans. Tintin, suspense. Là, ouais, un suspense. Torride, n'est-ce pas ? Style, je traduis. Où est-ce qu'il veut en venir, n'est-ce pas ? Hein ? Est-ce que... Où est-ce qu'il veut en venir ? Alors, on y va. Fais Yaakov. Quand Yaakov arrive en Égypte, Pharaon lui dit, mais monsieur, vous avez l'air extrêmement vieux. Il dit, effectivement, j'ai 130 ans.
C'est pas très vieux pour 130 ans.
Il dit, 130 ans à l'époque, ça allait.
Oui, ça allait.
Ouais, ça allait, ouais, 130 ans. 130 ans, cool.
Qu'est-ce qu'il a
fait? Il dit, en réalité, je suis pas si vieux, je n'ai que 130 ans. Mais j'ai eu tellement d'épreuves que je me suis fait des cheveux blancs. 130 ans. Alors, messieurs, dames, si on fait tout le calcul, on arrive il y a 116 ans, et là, quand il arrive en Égypte, il a 130 ans. Il y a un bug. One more time.
Ouais. Qu'a-t-il fait?
Vous savez, il y a des gens.
Il y a des gens,
on regarde leur biographie, on voit pendant 2 ans, on ne sait pas où vous étiez.
Ouais.
C'était un agent du KGB, vous voyez, style. Hein? Peut-être que Yaakov, c'était un agent, je ne sais pas, un espion d'Europe de l'Est, d'Allemagne de l'Est, voilà, peut-être.
Caché 14 ans.
Alors, on reprend. Tout ce calcul, les Chachamim disent la chose suivante. Les Chachamim disent. Pourquoi la Torah nous dit des choses qui apparemment n'ont pas d'intérêt? Que Sarah ait vécu 127 ans, c'est important. On nous dit qu'elle a vécu 100 ans, elle a vécu 20 ans, elle a vécu 7 ans. Ça, c'est pour nous dire qu'elle avait une continuité, c'était une tzadékette, une femme vertueuse, on peut apprendre d'elle, on peut s'inspirer de ses actes, etc. Ishmael, c'est le genre, pas voyou, mais disons, il n'a pas suivi la trace, vraiment, de son père Abraham. Néanmoins, la Torah nous dit le nombre précis de ses années. C'est quoi? 137 ans. Pourrait dire, je ne sais pas moi, on ne te dit pas, c'est la Torah, ça c'est, on dit la Torah, le monde a été créé sur la Torah. Pourquoi la Torah, le monde a été créé sur le fait que Ishmael a vécu 137 ans. Que le monde a été créé sur le fait que Sarah, notre matriarche Sarah, a vécu 127 ans. Surtout que là, on est dans une période d'idéologie féministe, vous allez dire effectivement, oui, évidemment, le monde tient sur le fait que Sarah a vécu 127 ans, ça c'est indubitable. Mais que ce monsieur, on ne sait pas très bien, la Torah nous dit peu de choses sur la vie d'Ishmael. Il a vécu 137 ans, pourquoi? On ne voit pas l'intérêt, c'est la question de nos maîtres. Ils nous disent si, c'est un intérêt. Grâce à lui, on peut faire tout le calcul. Et on découvre qu'il y a 14 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov.
J'ai une question. Pourquoi il...
Attendez. D'abord, je suis réceptif à toutes les questions, mais d'abord que ça, ce que je viens de dire soit d'une clarté style haute vitelle, quoi. Est-ce que c'est clair, Sylvain?
Ça me paraît clair, oui.
Non, ça me paraît, j'aime pas. C'est, soit c'est clair, ça me paraît clair, c'est déjà...
C'est clair.
Parce que ça sort à l'examen, je vous préviens. Là, c'est le genre de truc c'est, qui sort à l'examen, les trucs, les calculs, machin. Alors, maintenant, tout ça pour nous dire qu'il y a un trou dans la biographie, d'accord. Tu regardes les versets, on ne comprend pas. Encore une fois.
Donc on précise, excusez-moi, on précise l'âge d'Ishmael pour comprendre quelque chose de Yaakov.
Voilà, exact. En vérité, si la Torah nous précise à quel âge Ishmael est mort, quel âge il avait, c'est pour apprendre quelque chose, pas sur lui.
Oui.
Parce que sur lui, on n'a pas tellement d'éléments pour apprendre. Mais pour, c'est grâce à son nombre d'années, qu'on peut comprendre quelque chose qui nous échappe dans la vie de Jacob. Que quoi? Parce que, comme on sait à quel âge il est mort, et qu'on sait aussi qu'à ce moment-là, qu'à ce moment-là, c'est le moment où Jacob est parti pour se marier, et c'est le moment où Ésaü s'est marié avec la fille de Ishmaël. Et que c'est à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on a dit Mahalat, la sœur de Nevaïot. Ça veut dire que c'est Nevaïot à ce moment-là, c'est à ce moment-là que son père est mort, et c'est Nevaïot qui l'a amené au mariage. Et c'est à ce moment-là que Jacob est parti. Donc, c'est Jacob avait 63 ans. Or, avant que Joseph ne naisse, il y a 14 ans. Donc, 63 plus 14, 77. Lorsque Joseph est roi en Égypte, Joseph a 30 ans. Donc, Jacob doit théoriquement avoir 107 ans. On sait ensuite que lorsque Jacob découvre que son fils est toujours vivant et qu'il est le vice-roi en Égypte, il y a 9 ans qui sont passés. Donc 107 plus 9 égale 116. Tant que Jacob arrive en Égypte, Pharaon dit « Oh monsieur, vous avez l'air très vieux, que vous êtes vieux. » Alors il dit « Oui, c'est vrai, j'ai 130 ans. » 130 ans. 130 ans. Mais on a fait toute la biographie, il devrait avoir 116 ans. 14 ans, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob ? Qu'est-ce qu'il a fait, 14 ans, Jacob ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, moi, je dirais, 14 ans, il a fait, je ne sais pas, de la contrebande en Ouganda. Il est allé, je ne sais pas, il a tenu un casino à Los Angeles. Je ne sais pas, 14, qu'est-ce qu'il a pu faire ? Pourquoi la Torah ne nous le dit pas ? On peut dire, voilà, il était, je ne sais pas, il a fait, t'as des gens, tu ne peux pas savoir, il a fait des trucs sous une autre identité, il était un agent du Mossad. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, il ne faut surtout pas le dire, etc. Machin. 36, il y a 36 options. Notre tradition nous dit, on ne sait pas, ça veut dire que 14 ans, avant de partir chez Laban, il est allé étudier la Torah chez Shem et Éver, Shem, fils de Noé, et Éver, arrière-petit-fils de Noé. 14 ans, il n'a fait que ça. Si on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a fait qu'étudier la Torah de l'époque.
Comment ?
Alors, okay. Mais peut-être il a fait autre chose. Je ne sais pas. Le Gad, c'est connu que Yaakov a étudié 14 ans chez Shem Weber. N'est-ce pas ? C'est connu. Pourquoi faut-il que ça soit de cette manière bizarre de savoir qu'il y a...
Qu'on l'apprenne.
T'as qu'à dire carrément, dans la biographie, avant d'aller chez Laban, il est allé 14 ans étudier. Pourquoi la Torah ne le dit pas ? Elle a qu'à dire, voilà. Son père lui a dit, va à Haran épouser une femme dans ma famille. Avant de partir, il va chez Shem Éver, 14 ans, il étudie là-bas 14 ans, et après il va. La Torah ne le dit pas. C'est seulement parce que tout un bastringue de Saras, machin bidule, de bidule, qu'on n'a rien compris, que même si je vous dis sortez une feuille, vous n'arriverez pas à le faire.
C'est la première fois qu'on est tous interrogés là-dessus.
Vous vous souvenez, sortez une feuille ? Ah, c'est sortez une feuille, c'est horrible, sortez une feuille. Oh, lundi matin, 8h15, sortez une feuille, 5 questions. Oh, il veille, abhor. Quelle horreur. On devrait poursuivre les gens au tribunal international de La Haye pour torture mentale. Les gosses, ils viennent le matin. Là, 8h15, sortez une feuille. Zizek, sort une feuille au tableau. Oh, il veille. Alors, bon, un truc imbuvable, n'est-ce pas ? Je vous ai fait un truc, ça fait une demi-heure, je vous ai sorti un truc imbuvable. Et pourquoi c'est de ce truc imbuvable qu'on apprend cette chose importante qu'avant de partir chez Laban, il est allé ne faire qu'étudier 14 ans ? Pourquoi ? Ça, c'est une question...
Pour qu'on fasse le cours.
Pour qu'on soit là.
Bon, c'est fastoche. Pourquoi ? Alors ça...
Par humilité, par... Pour pas le dire, pas... Non, je sais pas.
Je sais pas.
Non, je...
C'est bizarre, non ?
Moi, ce qui me choque, c'est toujours ce 14 qui ressort, avec aussi les 77 ans, c'est 2, 7, c'est encore 14. Enfin, il n'y a que du rythme de 14, quoi.
C'est vrai que 14, ça revient, puisque Ishmaël avait 14 ans lorsque Isaac est né.
Et là, il passe 14 ans pour acquérir Léa et Rachel. Il passe 14 ans pour étudier la Torah. Il a encore 14 ans parce que on ne sait pas ce qu'il a fait.
C'est vrai, c'est vrai.
Pourquoi ? Pourquoi c'est tu sais 14 ?
Bon, ok. Donc je reprends la question. Hein ? Je reprends la question. Dans notre tradition, on dit que il était en Israël, Jacob, avec son père Yitzhak, son grand-père Abraham, qui venait de mourir. Il était décédé déjà. Mais bon, il était dans un contexte, si vous voulez, de sainteté, d'intensité spirituelle, avec sa mère Rivka, son père Yitzhak. Son père Yitzhak, il était quand même sur la Kedat Yitzhak. Son père, il était à la... Comment dire? Il était prêt à se sacrifier. C'est fréquenter des gens comme ça, disons, t'es dans une proximité avec des choses importantes, avec une intensité de vie, etc. Maintenant, il va partir de la terre de Canaan, il va aller en Mésopotamie, faisant clair, Mésopotamie, disons, c'est la Syrie de l'Est, c'est le Kurdistan, hein. Haran, c'est le Kurdistan actuel, Mossoul, par là, hein. Notre famille vient de là-bas, donc la famille d'Abraham, tout ça, on est du Kurdistan, on est tous des Kurdes. En un mot, on est des Kurdes. Bien. Alors, comment ?
Les bons Kurdes.
Alors, donc maintenant il va aller là-bas, où ça n'a plus rien avec cette proximité avec Dieu. Il sait que Laban, le frère de Rivka, c'est quelqu'un de très très dur à vivre, qui a des mœurs très très difficiles. Alors, il faut se préparer. Alors, je peux comprendre qu'on nous dise que pour se préparer, comme on pourrait dire aujourd'hui, quelqu'un, il a terminé le lycée, avant de faire des études à la fac, il va 2 ans à la yeshiva. 2 ans à la yeshiva, comme ça tu te construis, tu es 2 ans à plein temps dans une yeshiva, après tu pourras faire des études. Tu t'es rempli, tu peux aborder après la vie avec, en ayant des critères riches, intérieurs. Tu t'es d'abord construit, après tu peux aborder la vie. Voilà, c'est important de nous dire que Jacob, avant de partir, il est allé étudier 14 ans. Or, la Torah ne le dit pas. Le texte de la Torah ne le dit pas. On le déduit par des circonvolutions intersidérales à partir de la vie d'Ishmaël. Pourquoi ? C'est bien de nous dire qu'il faut étudier la Torah. Pourquoi la Torah ne nous le dit pas ? Si vous êtes là, c'est que vous venez étudier. J'imagine que moi, je vais vous dire, c'est bien d'étudier la Torah. C'est mon boulot. Je suis payé pour ça. Or, la Torah, c'est son boulot de nous dire qu'il faut étudier la Torah. Pourquoi elle ne le dit pas ? Elle le dit. Il faut le déduire.
Pourquoi
Nous Le spectacle est dans la salle.
C'est ça.
J'ai pas lu de corriger, je sais pas. C'est une question, c'est une vraie question. Pas un petit... Hein, gars, t'as une idée ? T'as déjà vu une réponse à cette question ? T'as même pas vu la question ?
Quoi ? Je connais la réponse.
Quoi ?
Je l'ai donné déjà.
Tu connais la réponse ?
C'est pour nous donner le mérite de... d'étudier la Torah.
C'est pas très sérieux. Non. Va un peu plus. Creusons plus.
Ouais.
Creusons plus. J'ai vu ça avec un de mes fils, il m'a dit, papa, ça c'est une question à toi, c'est typique. Je lui ai dit, mais non, c'est évident comme question. C'est pas... Il dit, ah oui, c'est une question à toi, ça.
Comme tout ce qui est caché dans la Torah, tout ce non, qui est vivant est caché, bon, peut-être qu'il faut le cacher aussi.
Mais pourquoi il faut le cacher ? Ah, voilà, ouais, pourquoi ? C'est le principal, non ? Quand même qu'il faut étudier la Torah, pourquoi ? La Torah, elle n'en fait pas, elle ne le dit pas clairement.
Comme tout renferme des secrets derrière la Torah, bon, du coup, peut-être qu'il faut aussi le cacher pour le
pourquoi
couvrir.
Pourquoi?
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 La Torah, c'est des diamants. Il faut travailler.
Pourquoi?
Oh, on veut savoir.
Je sais pas, j'ai pas lu les corrigés. Pourquoi la Torah ne dit pas clairement, d'abord, il est allé étudier 14 ans. Et puis, dire qu'avant de partir chez Laban, il fallait étudier, c'est quelque chose de très très important, c'est fondamental. Si c'est fondamental, pourquoi tu ne le dis pas? Quand le texte ne le dit pas, ça c'est bizarre quand même, c'est fondamental.
Pourquoi c'est fondamental?
Comment?
Et pourquoi c'est fondamental?
Ben c'est ça qui lui a permis de s'en sortir. C'est ça qui lui a permis de s'en sortir quand il va être chez Laban, il était armé.
Il avait déjà étudié avant?
Avant,
oui,
c'est
avant.
Ça ce qu'on dit. Avant, je suis chez Oalim.
Ah. Oui, alors, pourquoi il a besoin encore de 14 ans?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Les Juifs vont répondre à une question, pas à une autre question.
Ouais. Et pourquoi nos maîtres disent que 14 ans, il y a 14 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi on ne dit pas 14 ans, je ne sais pas, il a fait un truc qu'on ne peut pas dire. Il était tenancier d'une boîte de nuit à Acapulco. Non, je ne sais pas quoi. que on pouvait dire autre chose quoi. Pourquoi? Et on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas le dire. 14 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et non, il est allé étudier chez Mehver. Pourquoi tu dis ça?
De toute façon, de ce qu'il a étudié pendant 14 ans, il a pu avoir Léa et Rachel parce qu'il avait étudié, justement.
Alors, dis-le-nous, c'est important.
Oui.
Peut-être c'est par ce mérite-là qu'après...
Je pense que le mérite qu'il a eu, c'est de passer 14 ans à étudier. Mais il a encore 7 ans pour avoir Léa et encore 7 ans pour avoir Rachel.
Ouais.
C'est le bagne.
Ah oui, il a dégusté le petit Jacob. Il a beaucoup dégusté. Ça, c'est la paracha de Shabbat là, qui vient, hein, ce passage.
D'accord.
Parashat Vayetse, c'est justement le mariage de Jacob avec Rachel et Léa. C'est la parashat de Shabbat. Pourquoi c'est... Je vais vous dire moi ce que j'ai pensé quand je vois ce passage. Pourquoi on dit que cette notion importante, on l'apprend des années d'Ishmael? Ishmael, c'est son tonton. Sûrement dans la vie, nous, on apprend de ce qu'on voit autour de nous. Ishmael, la question de nos maîtres, pourquoi la Torah nous dit les années de la vie d'Ishmael? Parce que c'était son tonton qui, comment dire, peut-être, si vous voulez, dans la vie, on se dit, moi, je ne veux pas être comme lui. Ça vous est déjà arrivé, à tous, à toutes, ça arrive, ça. On a des proches et on réfléchit
Et on se dit, on a des exemples dans la vie. On se dit, non, moi, je ne veux pas. Je veux pas faire.
Je veux pas. On se construit finalement en contre-exemple, quoi.
C'est ça.
Voilà, ouais.
Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un, pendant 14 ans, il ne va pas être dans l'ordre classique du monde? C'est qu'il y a des choses qui l'ont fait travailler à l'intérieur de lui-même. Ce qu'il a travaillé, il a vu son tonton, il a vu Ishmael. Il dit, c'est ton tonton, c'est pas un type qui est à l'autre bout du monde, c'est son tonton. C'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a son père Yitzhak, il y a sa mère Rivka. Bon, c'est les grosses stars qui n'étaient pas faciles d'ailleurs. C'était pas des personnes faciles. Bon, mais c'est des personnes avec une densité spirituelle unique en leur genre. Et il y a le tonton. Le tonton, bon, c'est le fils d'Abraham, mais qu'est-ce qu'il a fait du fait qu'il est le fils d'Abraham? Il est peut-être très superficiel dans sa vie. Il dit, moi, je ne veux pas être comme ça. Moi, je vais rentrer dans la vie, prendre des responsabilités, mais je vais rentrer dans la vie, je ne veux pas rentrer dans cette superficialité. Donc, c'est le fait d'étudier la Torah, c'est parce qu'on a une réflexion intérieure. On ne va pas étudier la Torah simplement par mimétisme. Tu peux le faire par mimétisme. Mais à un moment, ça va être une réflexion intérieure. Cette réflexion intérieure, c'est dire, il y a 14 ans, il y a un trou, c'est comme la réflexion intérieure de chacun, si vous voulez. Pourquoi la Torah, elle nous dit les années d'Ishmaël? Pour nous apprendre de là que Yaakov, 14 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc 14 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Donc 14 ans, il est allé étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est pas un slogan, c'est pas il faut étudier la Torah. Étudier la Torah, ça vient aussi d'une démarche, ça vient d'un que tu t'es rendu compte dans la vie que tu peux passer ta vie à des bêtises, passer ta vie à tu aimais ça. Comment ça se passe? Ben c'est tes proches, tu vois les gens autour de toi. Souvent, tu dis, non, moi, je veux pas, je suis de la même famille et ça me travaille. Et il a construit ça, une démarche. C'est une démarche qui s'est construite. Comme là, on a fait un calcul très compliqué, il a fait une démarche, je pense, une démarche intérieure. Et cette démarche intérieure, la Torah, elle ne va pas te le dire. Elle ne va pas te le dire explicitement, parce que c'est chacun doit faire cette démarche intérieure. Chacun doit trouver un vide à l'intérieur de chacun et se dire, grâce à ce vide, je vais essayer de me construire. Parce que dans la vie, on peut finalement arriver à 120 ans, ou lui à 137 ans, comme dit notre maître à tous, Jacques Brel, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Non, ça veut dire, tu vois l'autre, il grandit, il arrive à 137 ans, tu te dis, zut, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est construit? J'ai comme, vous voyez par exemple, excusez-moi, je veux dire des choses un peu choquantes, il y a, des fois, tu as des couples, ils s'engueulent encore pour des broutilles. Je comprends pas. Prenons un exemple, je sais pas, par exemple, le truc classique que les hommes, je peux vous parler sur pièce, ils supportent pas, c'est on part quelque part et la madame elle est pas prête.
Ah, vous supportez pas ça?
Comment? C'est insupportable. Pour un homme, c'est insupportable.
Sérieux?
Non, mais j'explique. J'explique. Il y a un choc. Ça veut dire, et toc, juste à l'heure où on doit partir, elle dit, ah non, finalement, je ne vais pas m'habiller comme ça. Ça ne me va pas. Elle est complètement tarée. Je ne comprends pas. Ça fait 3 mois qu'on a reçu le faire-part, qu'on doit partir, et c'est juste à la dernière minute, elle essaie et dit, non, finalement, j'ai rien à me mettre. Je Alors, ça, un mec, il pète un câble. Il pète un câble. Mais, ok. Que ça soit la première année du mariage, il pète un câble. La deuxième année du mariage, il pète un câble. Mais un couple qui a vécu, disons, 30 ans, 40 ans ensemble, qui a encore, il pète un câble là-dessus. Mais ça fait peur. Parce que, qui réfléchit. Et il y a peut-être une logique à ça. Il y a peut-être cette autre manière de vivre les choses. Que c'est pas comme toi. Il faut peut-être comprendre, ok, un mec, il réagit aux choses d'une certaine manière, mais ta femme, elle réagit peut-être d'une autre manière. C'est peut-être sensé. C'est peut-être une autre logique que tu comprends pas. Il faut peut-être réfléchir, il faut peut-être approfondir. Mais comment ça se fait que nous, la plupart des gens, on bouge rien, on est tout le temps dans les mêmes mécanismes? C'est à hurler. C'est à hurler. Je pense que c'est ça que Yaakov, il a vu Ishmaël, 137 ans, et son tonton, quand il sortait avec sa femme, il s'engueulait tout le temps. Il dit, où sont les clés? Ah merde, où est-ce que j'ai mis les clés? Mais tu peux pas savoir, t'as mis les clés, ton sac à main, machin. Oh, c'est pas possible. Mais elle m'énerve. Essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu t'énerves toujours pour les mêmes choses. Que tu t'énerves un an, deux ans, trois ans, 10 ans, 15 ans. Stop! On essaie de comprendre un moment, on essaie d'approfondir, essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, mais ça, c'est un travail intérieur. Un travail intérieur, la Torah ne peut pas le faire pour toi. Il y a un vide. Il y a un vide. C'est ça ce qui s'appelle l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est un moment, il faut comment...
C'est remplir le vide, l'étude de la Torah, alors? Est-ce que ce serait ça la définition?
Non, c'est prendre, je dirais, du recul par rapport... C'est un recul. Un recul par rapport à sa manière instinctive de vivre les choses. C'est un recul par rapport à la manière instinctive et essayer de... Même d'avoir... D'apprendre. D'apprendre. On ne sait pas les choses, il faut les apprendre. Il faut apprendre, il y a une science, il y a une chorma. La science, ce n'est pas seulement construire un avion. La science, c'est peut-être construire, se construire. C'est ça ce qui s'appelle étudier la Torah. Mais peut-être que Yaakov, ce qui lui a donné la ressource de s'arracher de ça, c'est parce qu'il y avait son tonton. C'est ça ce qu'on nous dit. Qu'on l'apprend des années d'Ishmaël, parce qu'il a réalisé autour de lui la plupart des gens, même qui côtoyaient, nonobstant le fait que son père c'était Yitzhak, sa mère c'était Rivka, et son grand-père c'était Abraham, et sa grand-mère c'était Sarah, et j'en passais des meilleurs. Mais il était avec, dans la famille, il y avait des connards, excusez-moi l'expression. Et à un moment, il s'est dit, moi, si je continue, je vais être comme eux. Si je continue, je vais être comme eux. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas comme eux. Pourquoi je ne serais pas comme eux? Je n'ai pas la science infuse, l'infusion là, de science. Il y a un moment, il dit, il faut que j'apprenne. Parce que sinon, je suis comme les autres. Je suis aussi idiot que les autres. Et il faut que je me travaille. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'apprend des années d'Ishmaël, vous voyez. C'est la démarche. J'ai pas vu de commentaire qui explique ça, mais je me suis dit, ça doit être un truc comme ça. Ça, ce que je... Et peut-être même... Parce qu'en vérité, on est toujours l'idiot d'un autre. Oui. Nous, on croit que l'idiot, c'est l'autre. Et l'autre, il peut faire sur nous la même chose, je vais pas être comme lui. Mais... C'est toujours un regard de l'autre. On se construit parce qu'on a souvent, vous savez, les adolescents, moi j'adore les adolescents. Les adolescents, moi quand j'étais adolescent, j'étais très très en rupture avec mes parents. J'étais en grosse rupture. Mais ce qui est rigolo, c'est comme maintenant que j'ai des enfants adolescents, bon, Hachem, grâce à Dieu, ils ne sont pas en rupture, mais quand je les vois, qu'ils me regardent d'un air de dire, qu'est-ce qui... Il le dit pas, mais
Ça se voit.
Ça se voit. Et c'est dur, c'est très dur à vivre. Mais c'est vital. C'est vital parce que s'il n'y a pas quelque part une opposition, on ne peut pas se construire. Et la construction, elle est absolument vitale. Et me semble-t-il, c'est ça. S'il n'y a pas cette construction, on vit comme un animal, excusez-moi l'expression, un bipède, ça s'appelle. On est un primate évolué, quoi. On est... Donc, si la Torah nous dit qu'il y a un vide, et ce vide, on l'apprend d'Ishmael. Parce que Yaakov, peut-être, je propose, Yaakov, il s'est construit de autour de lui, il y avait des éléments qui l'ont fait réfléchir à la vie, et il s'est dit, eh ben, je fais une rupture pour pouvoir avoir des éléments, pour apprendre. Et ne pas vivre comme ça, comme si de rien n'était, et avoir tout le temps les mêmes mécanismes, les mêmes pouvoir avoir des éléments. Mais avoir ces éléments, il faut apprendre. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Enfin, une humilité. Cette humilité, elle n'est même pas écrite tellement elle est humble. Elle n'est même pas écrite.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Vous l'avez dit, hein, ouais, vous l'avez dit. Alors c'est ça, moi, ce que j'appelle la crainte de Dieu, vous voyez. La crainte de Dieu, c'est une démarche. Ce n'est pas un slogan. La Torah ne le présente pas comme un slogan. C'est une démarche. Et je pense aussi que ça donne un... En vérité, on est tous un ensemble. Toute l'humanité, c'est un ensemble dans lequel on se construit les uns par rapport aux autres. On évolue les uns par rapport aux autres. Et même, on pourrait dire... Les gens qu'on considère des fois qui sont des idiots, eh ben, ils nous apportent quelque chose, parce qu'ils nous renvoient quelque chose. Ils nous apportent une réflexion. Donc, ils participent d'une construction. Les gens, des fois, on pourrait penser, j'ai voulu appeler cette étude, pourquoi Dieu a fait tellement d'idiots sur Terre ? Je ne sais pas si vous êtes posé la question. Mais les idiots, bon d'abord, c'est nous qui pensons qu'ils sont idiots. Ce n'est pas objectif. Mais quelque part, ils participent d'une construction. Même t'as des gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils apportent ? Ils apportent, ne serait-ce que tu te poses la question, déjà, ils apportent quelque chose. C'est déjà positif. Ils participent d'une construction. Voilà, c'est ça ce que j'appellerais la crainte de Dieu. Bon, regardez, on ne va pas faire trop long. On a fait déjà ce passage. Ça, c'est vraiment, on a fait une étude vraiment sur texte, vous voyez, madame. C'est vrai, ça, c'est l'étude de la Torah. C'est, on creuse et ça nous fait réfléchir. Voilà, ça, c'est vraiment, ça s'appelle l'étude de la Torah. Regardez, je ne vais pas faire beaucoup plus long. On va s'arrêter là. D'accord ?
Merci.
Merci à vous.